Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour à Faudrait que tout le monde en parle sur les ondes de CFAQ 88.3 pour parler de son nouvel album qui paraîtra cette semaine et qui sera en spectacle tout bientôt à Sherbrooke. C'est Andrew Elsberger qui est au bout du fil. Salut Andrew.
Salut Alex.
Alors, voilà, on te reçoit ton nouvel album qui sortira ce vendredi. Déjouer le glas. Profondément oui. Personnel, peut-être, cet album-là qui est né, bon, d'une période assez difficile de ta vie. Peux-tu nous parler comment, cette expérience-là a pu peut-être affecter la création de ce nouvel album-là?
Ben c'est ça, en fait. Je me suis fait diagnostiquer un cancer en 2019, pardon, et j'ai eu une récidive en 2022. Donc c'était coup sur coup. Après la première série de traitements, j'ai composé un disque, j'ai produit le disque Long Way Home. Et là, après ça, après la récidive, ben j'ai fait celui-ci qui s'appelle Déjouer le glas, qui veut dire grosso modo déjouer la mort. Esquiver la mort. Fait que ça me retrouvait dans un état. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est loin d'être un état dépressif ou quoi que ce soit. C'est plus un état d'émerveillement, de reconnaissance d'être en vie. Tu choisis beaucoup des vieilles batailles que tu avais. Tu fais la paix avec tout ce qui est négatif autour de toi, puis tu redécouvres, dans le fond, la beauté puis les choses qui te sont vraiment chères à personnellement, tu sais. Donc, ouais. T'es propulsé par ça. Puis moi, la musique, ben c'est ma passion et tout ça. Donc, c'était mon fort. Après un traitement qui a moins bien été, j'attendais de récupérer de ce traitement-là, puis je me mettais à l'ouvrage. C'est ça qui me permettait de maintenir un peu le moral.
Marie, tu voulais ajouter?
Oui, alors moi j'ai juste noté que tu as choisi d'enregistrer Déjouer le glas en live, en une seule prise.
Oui.
Et donc déjà, cette approche reflète quand même une volonté d'authenticité très forte. Et en fait, je me posais la question, qu'est-ce que cette méthode spécifique t'a permis d'exprimer que tu penses que tu n'aurais pas pu faire avec des enregistrements plus traditionnels?
Oui, c'est ça, le premier disque, je l'ai fait en... J'ai fait la majorité, peut-être 75% des pistes seules chez moi dans mon studio personnel. Mm-hmm. Et j'ai fait, parce qu'on était en temps de COVID, donc on était cloîtrés chez nous. Mm-hmm. Donc c'était un peu aussi mon passe-temps durant la COVID. Et donc je faisais des pistes et je les empilais chez moi. Et quand j'entendais un instrument, mais je contactais, mettons, je joue pas de violon, donc souvent, j'entendais des instruments à cordes frotter. J'appelais mon ami Alex. Je lui demandais si je t'envoie ce que j'ai comme mix, est-ce que tu peux faire cette ligne-là? J'écrivais la mélodie que je voulais qu'il joue. Ou des fois, je les laissais improviser à mes collaborateurs. Ça donnait lieu à quelque chose de peut-être un peu plus rigide, ouais. Un peu moins dynamique. Mmh. Tandis que là, je voulais vraiment faire une cassure avec ce processus-là pour quand il y a des moments d'improvisation où un soliste s'exprime sur l'instant en improvisation finalement, que les autres autour ne fassent pas juste faire une boucle de quatre mesures sans intention, sans intensité, sans être influencé par le soliste. Mmh. Donc ça permet tout ça de jouer ensemble. Puis c'est une des parties que j'adore le plus de mon métier, c'est de jouer avec des gens, avec des amis musiciens, puis découvrir leur univers, puis s'inter-influencer. Donc c'est ça que je voulais recréer sur l'album. Et effectivement, c'est toutes des pistes uniques. Il y a un seul endroit, je pense qu'il y a juste une pièce qui a une cote à quelque part, une coupure pour faire le début d'une version et la fin d'une autre. On a collé ça, mais sinon, c'est vraiment des one-take, comme on dit.
Mm-hmm. Mm. Et du coup, tu penses que ça t'a permis, et que ça a permis à l'album de transmettre plus d'émotions et les émotions que tu voulais transmettre aux auditeurs d'une meilleure manière que si ça avait été enregistré, c'est ça?
Je crois que j'ai la prétention de dire que c'est ça que je voulais faire. Je ne sais pas si, si je suis parvenu, ça c'est les gens qui me le diront. Mais je crois que oui, je pense que ça transparaît beaucoup dans l'album avec toute la gamme de dynamique qu'il y a, de passer de très doux à très plus puissant, plus intérieur à plus enjoué. Ouais, je pense que ça permet plus ça, effectivement.
Okay. Ben, tu l'as mentionné aussi un peu en ouverture d'entrevue. T'sais, l'album est décrit comme étant un manifeste de vie malgré le thème de la maladie. On peut même percevoir peut-être une ambiance pleine de sérénité, d'acceptation. Quel élément musical tu dirais que tu as privilégié pour évoquer les émotions dans ton album? Comme il n'y a pas de paroles, c'est de la musique instrumentale que tu fais davantage.
Oui. Moi, mon instrument principal, c'est le oud. Le mien vient de Turquie. Le oud, c'est l'ancêtre du luth et de la guitare par ricochet. Là. Ça dépend à qui tu parles. Mm-hmm. Mais c'est un instrument à cordes qui ressemble à la guitare, qui est très utilisé au Moyen-Orient, dans les pays arabophones et en Turquie. Le mien vient de Turquie, de Istanbul plus précisément. Mm-hmm. Et c'est un instrument super expressif. Tu peux jouer avec des glissando, approcher la note, un peu comme un violoncelle. C'est à peu près le même registre qu'un violoncelle, d'ailleurs. Donc, tu peux aller chercher les notes par en dessous, monter graduellement. Ça se rapproche beaucoup de la voix humaine, à quelque part, avec les intentions. Donc, pour moi, personnellement, mon apport, ça a été beaucoup avec ça. Jouer avec les dynamiques, ça raconte des histoires aussi. Dans la composition, c'est de faire des moments très très par des petits motifs répétés. Des fois, on peut comme marteler une idée, une saveur, une odeur, juste avec un petit motif répété, ça amène toujours quelque chose. Et mes musiciens sont incroyables aussi. Le joueur de chalumeau, qui est l'ancêtre de la clarinette, ça peut aller de 0 dB jusqu'à 90 dB facile. Donc, il peut jouer dans toute la palette des émotions. Puis lui aussi, il est capable de beaucoup de flotter au-dessus d'une structure. Puis je trouvais ça important d'explorer ces ondes-là qu'on n'explore vraiment pas souvent en musique populaire ou ce qu'on entend habituellement à la radio. Là.
Mmh. Ouais. Je comprends. Ryan, petite question.
Salut, tu vas bien, Andrew?
Ça va bien, toi?
Ça va bien. Moi, je t'explique. C'est un petit format simple, en fait. C'est tu préfères ou tu likes quoi? Je vais te balancer quelques questions. C'est un peu pour que les auditeurs se fassent un peu une idée de ta personnalité. C'est très
parfait,
rapide.
Je vais essayer d'être succinct.
Voilà, c'est ça. T'as compris le concept. C'est très rapide. Tu peux donner un peu ton raisonnement personnel, mais assez rapidement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir au moins une petite ambiance, une petite vision de ta vision artistique. T'es parti? T'es prêt?
Je t'écoute, Ryan. Oui.
Super. Alors, top. Pour un album inspiré par des épreuves de vie, tu préfères la force et l'espoir face à la maladie, la vulnérabilité et la lutte intérieure?
Ah.
Essaye, vas-y. Vraiment, il faut que ça vienne d'instinct, tu vois.
Le premier choix, il y avait...
La force et l'espoir face à la maladie, la vulnérabilité.
Oui.
Ok, la force.
Oui, 100% la première réponse.
Quel type de morceau instrumental préfères-tu écouter? Mélodie contemplative et lumineuse ou composition mystérieuse et intense?
Oh, ça, c'est difficile. Ça, c'est 50-50.
OK, 50-50.
Dans une pièce, il y a les deux réponses. Là. Dans une seule pièce, là, je suis très comblé.
OK. En termes d'influence musicale, tu te définis plus musique cinématographique néoclassique ou son traditionnel et folk?
Aussi. Cinématographique et...
OK. Lors d'un concert, tu préfères un environnement intime avec de l'émotion palpable ou alors une salle vivante et de l'ambiance?
Hey, pour mon projet, je préfère de l'écoute et de l'émotion palpable, c'est comme ça que tu l'as dit?
Palpable, c'est ça, ouais. Ok.
Ouais, ouais.
Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, c'est malheureux, mais j'en avais quelques autres en fond, mais ça va. Merci en tout cas.
Une petite dernière.
Je peux?
Oui.
Allez, une petite dernière. Bon. Si un artiste s'inspire de son vécu pour créer, tu trouves que c'est plus intéressant que ça soit nourri de composition et d'inspiration, de composition inspirante, désolé, ou alors que ça explore des émotions un peu plus sombres?
Oh, j'aurais peut-être dû en rester là, je sais pas quoi répondre.
Ok, on dit 50-50, ça marche.
Oui, 50-50, c'est des très bonnes questions et des très bonnes réponses, merci pour ça.
Écoute, comme je le disais, tu seras en spectacle du côté de la Petite Boîte Noire le 19 novembre prochain. Dans mon ordi, pour conclure l'entrevue, j'ai La Valse du Corbeau, si tu veux nous présenter cette petite pièce-là pour conclure l'entrevue.
Oui, La Valse du Corbeau, hein, c'est cool. C'est une pièce plus cérébrale, celle-là. Elle est en 11 temps. Le corbeau, c'est un... j'ai pas fait une valse pour un corbeau, c'est vraiment une constellation. Je cherchais quelque chose qui avait 11 items, puis la constellation du corbeau a 11 astres dans la constellation. Donc, c'est un nom que j'ai trouvé comme pas mal après avoir composé la chanson. Fait que c'est pas inspiré de, c'est vraiment juste un thème mathématique, puis d'y avoir trouvé un sens par après. Là. Ça a une petite ambiance un peu mystérieuse au début, puis la mélodie est assez complexe. Je pense pas que c'est la première mélodie qui te reste en tête. C'est pas un verre d'oreille, mais l'atmosphère est vraiment intéressante.
Alors, l'album sort ce vendredi, Déjouer le glas, et en spectacle la semaine prochaine, le 19 novembre, à la Petite Boîte Noire. Andrew, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci beaucoup, Alex, et Ryan et Marie.
Exactement. Merci beaucoup.
J'ai fait mes devoirs.
Ah ouais, incroyable.
Bye-bye.